There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Pot-Pourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Pot-Pourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Pot-Pourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Pot-Pourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Mmh. Tout au long du mois de février, Popourichou, en partenariat avec la Compagnie Créole à Montréal, présente la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs. Une belle occasion pour découvrir les artistes et la richesse de la diaspora africaine au Canada et les tribus pour lesquelles la culture africaine continue de rester au cœur du mode de vie. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, avec Festival Théâtre à Communauté Noire et Popourichou sur CUT 89,5 FM. Tous les détails sur popourichou.com. Bon mois de l'histoire des Noirs avec la compagnie Théâtre à Créole et CUT FM.
Je pense qu'il est important que ceux qui sont encore en vie, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, puissent faire connaître aux jeunes justement ce qui s'est passé à cette époque-là et leur permettre de réaliser les horreurs de la guerre et d'œuvrer pour la paix. Parce que la guerre, c'est une chose horrible et j'espère que ça ne se reproduira jamais.
La francophonie torontoise est en deuil. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Jean-Gabriel Castel, né le 21 juin 1925 à Nice, en France, a servi pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aura marqué de son empreinte les 20e et 21e siècles de par son engagement social, son courage et ses qualités de professeur de droit, notamment à Toronto. CUTFM rend hommage à cet homme d'exception, un passeur de mémoire. Et si vous souhaitez y participer, veuillez nous envoyer vos textes à popourri@cut.fm ou un message via WhatsApp le plus tôt possible. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Nos sincères condoléances à sa famille et la communauté française de Toronto. Soyez des nôtres sur cette antenne pour rendre hommage à Jean-Gabriel Castel. Tous les détails sur sa vie et ses nombreuses actions à Toronto sur popourichou.com. Popourichou, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. En 2024, CUTFM, en partenariat avec RFI France 24 et ses partenaires communautaires francophones et créoles, vous fait découvrir les francophonies dans toute leur diversité. Pour rien au monde, ne manquez pas nos grands rendez-vous. Festival Jeunesse Ciné Franco, Festival Théâtre Communauté des Noirs avec la compagnie Théâtre Créole en février et mars. Le mois de l'histoire des Noirs en février avec Sophie Franc. Le mois de la francophonie en mars. Le mois de l'histoire autochtone, le mois des fiertés, au mois de juin. La fête nationale française, le 14 juillet. Festival Compazouk Efkazo, au mois de juillet-août. Le mois du créole avec Kepka, en octobre. Le festival Ciné Franco, grand public en novembre. Les nouveautés littéraires, avec les éditions Prise de Parole. Les nouvelles des Français de l'étranger, avec l'association Français du Monde, Toronto. Popourichou. 37 ans déjà, chaque dimanche de 11h à 13h sur www.cut.fm en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Concerts, spectacles, des cartes cadeaux, des places VIP, des émissions spéciales, des conférences du CREFO, les visites guidées de la Société d'Histoire de Toronto et les bons plans de nos partenaires de la région et du monde francophone. Abonnez-vous immédiatement à nos bulletins d'information pour ne rien manquer. Devenez membre, chroniqueur ou partenaire de la seule émission en langue française sur la Radio Campus de l'Université de Toronto. Vous avez une thématique à nous proposer, une nouvelle à nous partager, alors faites vite, écrivez-nous à popourri@cut.fm ou visitez tout simplement notre site web popourrishow.com. 2024, c'est l'année des voix, des sans-voix sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Dimanche 14 janvier 2024. En 2024, nous nous engageons résolument pour mieux vous servir. Bonjour et bienvenue à votre magazine de la francophonie, Popourri Show, sur CUT 89,5 FM, en direct du campus de l'Université de Toronto, sur la bande 89,5 FM et en ligne sur www.cut.fm ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur Rogers Cable 946. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Kader, qui vous accompagne depuis plus de 36 ans. Pour écouter nos émissions où que vous soyez, c'est très simple, vous pouvez télécharger à partir de notre site web popourrishow.com. Et cette émission est réalisée en partenariat avec l'association Français du Monde Toronto et Tolalito Music, aujourd'hui exceptionnellement en direct de la Floride. Vœux et galettes des rois et des reines d'un jour, notre partenaire communautaire Français du Monde Toronto a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle réunion du début de l'an, prévue le samedi 20 janvier à 16h. Il faut absolument vous inscrire et les inscrits recevront confirmation ainsi que tous les détails concernant le lieu, la salle et l'accès à la salle de réception chez Henriette et Régent. Vœux et galettes des rois et des reines d'un jour, samedi 20 janvier à 16h, de très belles rencontres. Eh oui, allez, faites vite, retrouvez tous les détails sur le site web de Français du Monde Toronto, www.fdm-to.ca/galette, ou sur notre site web popourrishow.com. Et ce dimanche, on vous invite au voyage. On vous plonge dans la petite histoire et la carrière exceptionnelle d'un grand Canadien d'origine française qui a passé plus de 50 ans sur notre territoire. On débute avec nos amis du magazine L'Accent des Autres qui nous fait découvrir quelques reportages exceptionnels sélectionnés pour le prix du journalisme, média francophone public, partenaire de cette émission. Et juste après, direction Floride. La 9e édition d'un événement annuel, le prix prestigieux de la musique haïtienne, qui récompense à chaque année les meilleures voix et artistes haïtiens en Amérique du Nord. Parmi nos amis nominés, Wesley et Richie J, artistes solo haïtien canadien de l'année 2023. C'est la catégorie. Eh oui, nous recevrons Richie J et son agence artistique Tolalito Music, partenaire de notre émission en direct de la Floride. Dans la deuxième heure, CUTFM, en partenariat avec le Consulat Général de France de Toronto et Français du Monde, et rend hommage à un homme au parcours extraordinaire qui a choisi l'Ontario comme terre d'accueil. Le juriste Jean-Gabriel Castel, professeur de droit international à Osgoode Hall et au collège Glendon, résistant contre l'occupation allemande à l'âge de 15 ans, ancien président de l'Association des anciens combattants français, résidant en Ontario et au Manitoba. Il a été très actif dans la défense du français et des droits des franco-ontariens. Récompensé à multiples reprises, et oui, il est décédé le 30 décembre dernier à Toronto à l'âge de 95 ans. Nous espérons bien recevoir quelqu'un du Consulat Général de France et notre ami de toujours, Gérard Poupé, président de l'Association Français du Monde Toronto, ancien professeur de français et proviseur chargé de la direction des études françaises, l'organisateur depuis 2002 des commémorations de la bataille de Vimy à Toronto, homme très engagé dans l'édification d'un monument commémoratif de l'amitié franco-canadienne à Ottawa. Tous les détails sur notre site popourishow.com. Il sera des nôtres dans la deuxième heure à ne pas manquer. Et sans plus tarder, place au magazine L'Accent des Autres. Nous avons plusieurs personnes qui nous appellent un peu partout de l'étranger. Et oui, merci, on vous répond dans un instant. Merci du fond du cœur à tous nos partenaires et donatrices, donateurs, les professeurs, les bénévoles qui nous soutiennent depuis 36 ans. Que votre année soit belle et pleine de bonnes surprises. Bonne écoute et bon voyage sur les ailes de CUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Bienvenue dans cette édition spéciale de L'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné la RTBF cette année. Nous retrouverons la lauréate Barbara Schall après la diffusion d'un extrait de son reportage au chevet de Nénette. Atteinte d'un cancer, cette jeune fille fait le choix déterminé de donner ses organes pour que sa mort ne soit pas inutile. Et puis nous irons aux États-Unis où dans la grosse majorité des États, rien n'interdit d'épouser des mineurs, souvent de très jeunes filles, deux des meilleurs documents soumis cette année au prix du journalisme des médias francophones publics. Un prix que vous décernez, vous, notre public. Début décembre, vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et puis aussi dans le reste de la francophonie grâce à Radio France Internationale, 100 auditrices et auditeurs au total donc qui ont choisi leur favori parmi les propositions des 5 radios francophones publiques et vous avez primé un sujet sensible, celui de la RTBF qui nous raconte l'histoire de Nénette. Cette adolescente est décédée en juillet dernier après une longue lutte contre le cancer. Elle a tenu à faire don de ses organes et surtout à rendre son geste public pour inciter d'autres personnes à se déclarer donneuses si elle venait à mourir. Barbara Schall et Julien Bader ont rencontré Nénette dans sa chambre d'hôpital peu avant son décès. On écoute un extrait avant de retrouver Barbara.
C'est Nénette qui a demandé à nous voir. Nénette, c'est son surnom, un petit nom que lui a donné un jour un ami de la famille et qui lui colle à la peau. Elle est brune, le regard décidé, une tignasse courte et rebelle à cause des chimios. Au moment où nous la rencontrons, Nénette a 16 ans et une tumeur au cerveau qui ne lui laisse plus d'espoir. Il ne lui reste que quelques jours à vivre et elle le sait bien, puisque c'est elle qui choisira le moment. À sa demande donc, on la rejoint dans sa chambre d'hôpital. Elle est entourée de ses deux parents.
Bonjour
tout le monde. Bonjour. 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 Okay. Julien,
enchanté. C'est
Nénette.
Ouais. Voilà, du coup, est-ce que ça te va si on t'appelle Nénette, qui est ton surnom? Oui, voilà, tu fais un pouce levé. Nénette, si tu as des choses à nous dire, peut-être que tu peux voilà, nous faire un signe et puis tes parents expliqueront peut-être un peu mieux ta pensée, si ça va. Ouais, ok.
À ce stade, Nénette ne peut plus parler. Ce sont ses parents qui prennent la parole pour elle. Mais elle suit attentivement la conversation, elle lève le pouce pour acquiescer, elle nous sourit. Vous l'entendrez parfois émettre des petits sons. Si elle a tenu à nous faire venir, ce n'est pas pour s'étendre sur sa maladie, mais pour nous parler de la suite.
Elle a décidé de faire don de ses organes, et ainsi que son cervelet avec les tissus, pour aider la recherche, voilà, et aider d'autres personnes. Elle a décidé ça toute seule, donc on n'était pas au courant, et elle en a fait part à la psychologue et la responsable du service, parce qu'elle avait décidé de ne pas continuer à vivre dans un corps où on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on ne peut pas manger, et voilà, elle s'est dit, elle a profité de l'occasion pour surprendre tout le monde et dire, voilà, moi je veux donner mes don d'organes. Et je crois que le médecin qui s'occupe d'elle et la psychologue qui l'a suivie tout au long de sa maladie sont tombés le cul à terre, comme on dit. C'est comme ça, hein, même.
Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez été vraiment impressionné par son geste parce que c'est pas du tout les parents ou le corps médical qui l'a suggéré.
Oui, en effet. C'est Nénette qui a décidé d'elle-même. Et on a appris hier d'ailleurs que cela faisait 2 ans qu'elle y pensait. Donc même quand elle était en bonne santé et sans sa maladie, elle pensait déjà au don d'organes.
Comment ça t'est venu, Nénette, cette idée, avant même d'être malade? Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille comme toi pense à ça?
Des émissions.
Elle veut aider les autres. Voilà.
Ouais. C'est quelque chose qui a toujours été en elle.
Oui.
Comment vous avez réagi à cette annonce, à cette volonté?
Enfin, moi, surpris, mais pas étonné.
Oui, moi aussi, surprise, si jeune, de prendre des décisions si importantes, mais pas étonnée non plus, dans le sens où on reconnaît bien là notre fille. Et on est très fiers, très très fiers.
C'est une fille magnifique.
Donner un sens à la mort, c'est au fond cela le message de Nénette, Barbara Schall.
Oui, c'est ça. Nénette, c'est une toute jeune femme qui, effectivement, savait que ses jours étaient comptés et qui a fait le choix, toute seule, elle n'a pas été poussée par ses parents ou par l'équipe médicale, de faire don de ses organes. Et donc, c'est elle qui a contacté les médias, qui a contacté la RTBF pour faire la promotion, quelque part, de son geste et encourager d'autres personnes à faire comme elle et à se déclarer ouvertement donneur d'organes.
Et donc ce besoin de témoigner, il a au fond facilité l'irruption d'un micro dans ce cadre très intime.
Oui, Nénette, c'est une jeune fille qui m'a beaucoup impressionnée parce que justement, elle n'était pas du tout impressionnée par la présence des médias. Elle était évidemment très diminuée quand on l'a rencontrée, mais on sent que c'est quelqu'un qui avait un caractère très fort, quelqu'un de très déterminé, qui se laisse pas facilement intimider. Et donc, ça s'est fait assez facilement. Il n'y a pas du tout eu de moment de gêne ou de timidité. Et même sans communiquer par des mots, on a réussi à se parler en lui demandant de communiquer sa pensée à ses parents, qui ensuite l'interprétait. Et donc finalement, le dialogue, même sans utiliser de mots, s'est passé de façon très fluide et on a très bien compris ce qu'elle voulait nous dire.
Et au fond, le thème délicat de l'euthanasie, il est quelque sorte occulté par celui du don d'organes. C'était aussi votre but dans ce reportage?
Oui, parce que quelque part en Belgique, c'est quelque chose qui est tout à fait accepté et entré dans les mœurs. Donc Emeline a fait ce choix de l'euthanasie. Là encore, c'est vraiment une décision qui vient d'elle. Ce qui était vraiment primordial, c'était cette volonté, après sa mort, de faire don de ses organes. Et effectivement, c'est vraiment ça le thème du reportage, oui.
Barbara Schall, lauréate 2023 du prix du journalisme des médias francophones publics. C'est Radio France qui a obtenu la 2e place dans le cœur des auditrices et auditeurs avec cette réalité étonnante aux États-Unis. 300 000 enfants ont été mariés en moins de 20 ans, surtout des filles mariées à des adultes. Ces unions sont tout à fait légales. Dans 40 des 50 États du pays, souvent victimes de viols, elles sont poussées par leurs parents, leur communauté religieuse ou leur milieu social à une union qu'elles ne désirent pas. Dans cet extrait de son reportage en Californie, Valérie Cantier part à la rencontre de Dawn, mariée de force à 13 ans.
Donc là, on va aller voir avec Dawn l'appartement où elle a vécu ici quand elle avait 16 ans et qu'elle avait ses deux bébés et qu'elle était mariée avec un homme qui avait 19 ans de plus qu'elle.
Feeling pretty emotional, actually. I'm shaking.
Je suis très émue. J'en tremble.
Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte, Dawn Tyree n'a que 13 ans. Ses parents ne lui donnent pas le choix. Ils l'obligent à épouser le père de l'enfant sans se poser de questions. Il a pourtant 32 ans.
J'avais 13 ans quand on m'a obligée à épouser l'homme qui me violait. Ça faisait 2 ans qu'il m'agressait sexuellement. Ça a commencé quand j'avais 11 ans. C'était un ami de la famille. Et une fois qu'un enfant est marié, un médecin, un enseignant, ou qui que ce soit, personne ne peut plus faire de signalement car le mariage est légal. C'est un mariage juridiquement légal. Il ne peut rien se passer, ça protège tout le monde. En particulier, le mariage d'enfant protège le prédateur contre de probables accusations sur des faits avant le mariage. Donc pour ce qu'il a fait quand j'avais 11 ans, il ne pourra jamais être poursuivi, car nous étions mariés.
L'ex-mari de Dawn, cet homme de 19 ans, son aîné, a accepté de répondre à nos questions par téléphone. Difficile pour lui de voir où est le problème.
Les choses étaient enfin... Il n'y avait rien de particulier, quoi. Nous, on ne voyait aucune différence d'âge. On était juste amoureux. On faisait plein de trucs ensemble. Donc on s'est mariés. Son père était là, d'ailleurs.
Aujourd'hui, si vous voyez, vous apprenez qu'un adulte se marie avec une mineure qui a 19 ans de moins que lui, comment vous réagissez? Comment vous voyez ça?
Je ne vois pas où est le problème. S'ils s'aiment, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas de nos jours? C'est facile pour les autres de juger. Vous ne pouvez pas toujours faire ce que tout le monde veut, sinon vous ne feriez jamais rien.
Est-ce que vous avez des regrets?
Non. Je ne vois rien de mal dans tout ça.
Merci.
En Californie, 25 000 enfants et adolescents ont été mariés ces 20 dernières années. L'écrasante majorité sont des filles mariées à des adultes. À ce jour, 40 États américains sur 50 autorisent le mariage des mineurs.
Valérie Cantier, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur cette question des mineurs mariés aux États-Unis?
En fait, c'est Twitter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, j'ai vu passer des tweets sur le mariage des mineurs aux États-Unis de la part d'associations américaines qui luttent contre le mariage des mineurs. Et donc, je me suis posé cette question, mais de quoi parle-t-elle en fait? Parce que je n'étais absolument pas au courant. Et je pensais bien connaître ce pays et j'ai découvert des choses assez incroyables sur cette réalité qui est la légalité du mariage de mineurs aux États-Unis.
Et c'était compliqué de trouver des témoins, de convaincre Dawn, par exemple, de se livrer à votre micro?
Je ne sais pas si on peut dire compliqué, en tout cas ça a été long. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail avant d'aller sur le terrain. Et avec les 9 heures de décalage, forcément, on a passé plusieurs soirées au téléphone et en réunion Teams avec des témoins. Et toutes celles qu'on a rencontrées, elles ont accepté de nous parler. Et vraiment, c'était des moments très émouvants.
Et l'ex-mari lui-même de Dawn, justement, il a accepté de vous répondre, mais par téléphone. Est-ce qu'il y avait quand même un certain malaise chez lui? Parce que dans ses propos, il est au fond dans le déni complet.
Alors, la surprise, elle venait de ma part, en fait, parce que quand je l'ai appelé, donc on enregistrait quand même au cas où, mais très honnêtement, je l'appelais surtout pour caler un rendez-vous avec lui, en fait, voir s'il aurait été d'accord pour être interviewé. Et au final, il m'a parlé tout de suite au téléphone. Il n'était absolument pas gêné. Il comprenait pas pourquoi je l'appelais parce que je faisais un reportage sur le mariage des mineurs. Je crois qu'il réalisait même pas qu'il était directement concerné. Et puis très vite dans la conversation, comme on peut l'entendre, il trouve ça normal. Je rappelle juste qu'il avait 32 ans et elle en avait 13. Quand ils se sont mariés. Et elle parle clairement de viol, bien sûr, puisque c'était le babysitter. Il la gardait depuis qu'elle avait 11 ans et il a très vite agressé sexuellement.
Merci à Valérie Cantier de Radio France qui met un terme à cette édition. Merci de votre attention. Dès le 12 janvier, nous retrouvons l'accent des autres dans sa forme habituelle. Bonne semaine à vous.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
CIUT 89,5 FM, la radio qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Ok, il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette ville étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok,
toute l'équipe de la radio vous souhaite une année magique.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festiv'Ébène, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfour. En partenariat avec Popourri Show et CIUT 89.5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à des cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. Parlant de l'immigration, je vous invite à participer en grand nombre à la prochaine conférence du CREFO, conférence animée par Jasmine Bégin-Marchand, candidate à la maîtrise à l'Université de Toronto. La thématique: l'immigration francophone en Ontario, un regard sur le potentiel offert par le carrefour francophone du savoir et de l'innovation afin de faciliter l'intégration. Prévu pour le mardi 16 janvier de 17h à 18h30 dans la salle de conférence du CREFO, 6e étage, 252 rue Blois Ouest, c'est le métro Saint-Georges, si je ne m'abuse. Et cette conférence sera aussi disponible en ligne par vidéoconférence Zoom si vous préférez. Il faut absolument vous y inscrire en cliquant sur le lien que vous retrouverez sur notre site web popourichaud.com. Mardi 16 janvier de 17h à 18h30, le CREFO vous y attend dans la salle de conférence du CREFO. Tous les détails sur notre site web. La francophonie torontoise est en deuil. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Jean-Gabriel Castel, né le 21 juin 1925 à Nice, en France, a servi pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aura marqué de son empreinte les 20e et 21e siècles de par son engagement social, son courage et ses qualités de professeur de droit, notamment à Toronto. CUTFM rend hommage à cet homme d'exception, un passeur de mémoire. Et si vous souhaitez y participer, veuillez nous envoyer vos textes à popourri@cut.fm ou un message via WhatsApp le plus tôt possible. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Nos sincères condoléances à sa famille et la communauté française de Toronto. Soyez des nôtres sur cette antenne pour rendre hommage à Jean-Gabriel Castel. Tous les détails sur sa vie et ses nombreuses actions à Toronto sur popourrichaud.com. Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête tout au long de l'année en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourichaud, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
Vous êtes 167 000 en moyenne à regarder chaque jour Martinique Première, numéro 1 en audience cumulée. Merci de votre confiance.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourichaud et Prise de Parole.ca nous donne envie de déguster des histoires, dévorer les pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca. Prise de Parole nous présente quelques nouveautés littéraires pour la saison estivale. Regard croisé sur la grève d'Amoco à Hawkesbury, une histoire ouvrière de l'Ontario français d'Adrian Gagnon. La grève d'Amoco de 1980, lors de laquelle s'est soulevée la population ouvrière de Hawkesbury, marque un temps fort de revendications franco-ontariennes. Trois personnes qui ont chacune à sa façon pris part à la grève, Serge Denis, politicologue, Richard Hudon, animateur social, et Jean-Marc Dalpé, dramaturge et écrivain, replongent dans leurs souvenirs pour mettre en lumière la conjoncture sociopolitique qui a mené à la mobilisation des travailleurs et travailleuses de la région. Andréan Gagnon a mené une enquête approfondie sur l'histoire ouvrière de la ville natale de ses parents, Hawkesbury, à retrouver sur prisedeparole.ca. Dans une ère teintée par le cynisme et le repli individualiste, Ode, une œuvre chorale et carnavalesque de l'artiste polyvalent établi à Sudbury, Antoine Côté-Legault, prend appui sur la force de la solidarité, sur la demesure et sur le pouvoir symbolique de la fête comme arme de résistance à la peur et au désespoir. Ode d'Antoine Côté-Legault, un passionné de la littérature sonore. Il a créé et interprété le balado dont vous êtes le héros. L'Académie des Cascades du quotidien, le parcours immersif à l'histoire en flamme et a co-créé le balado Mine de Rien. Antoine est également le directeur artistique des Feuilles Vives de Théâtre Action, un événement voué au développement de nouvelles œuvres théâtrales franco-ontariennes. Ode à retrouver sur le site web de prisedeparole.ca. Prise de parole 50 ans déjà. Un catalogue d'une remarquable richesse qui en fait un pilier de l'édition francophone en Ontario et au Canada. Tout au long du mois de février, Popourichou, en partenariat avec la Compagnie Créole à Montréal, présente la 6e édition du Festival Théâtre à Communauté des Noirs. Une belle occasion pour découvrir les artistes et la richesse de la diaspora africaine au Canada et les tribus pour lesquelles la culture africaine continue de rester au cœur du mode de vie. Mois de février, mois de l'histoire des Noirs, avec Festival Théâtre à Communauté Noire et Popourichou sur CUT 89,5 FM. Tous les détails sur popourichou.com. Bon mois de l'histoire des Noirs avec la compagnie Théâtre à Créole et CUT FM.
Voyage, destination Miami. Ah, un peu de chaleur, un peu de soleil. Bienvenue sur la planète Soleil avec Tonalité Music.
Eh oui, Rugigé, je vous invite, madame, monsieur, maintenant au voyage, destination Miami, l'un des endroits les plus fous de la planète. Eh oui, nous allons nous rendre à la 9e édition des prestigieux prix de la musique haïtienne qui a pris fin hier soir. Une première d'ailleurs hein, pour les artistes haïtiens du Canada. Tous les détails sur haitianmusicawards.info. Et cette année, cet événement grandiose a lieu au Julius Littman Performing Arts Theater situé au North Miami Beach. Vous connaissez l'endroit, n'est-ce pas? Cet événement est le premier du genre dans l'histoire de Miami. L'objectif est de reconnaître les nombreuses voix et talents pour partager les sons émouvants des artistes haïtiens de la diaspora en Amérique du Nord. Et cette 9e édition est attendue par un public très varié, composé d'étudiants, de familles, de dirigeants communautaires et de professionnels. Et le chanteur haïtien de Montréal, très connu, Wesley, qui est passé à plusieurs reprises sur cette antenne, était parmi les nominés. Et notre invité, qui est aussi sur la liste des nominés, ou qui était sur la liste des nominés, ça a pris fin hier soir, nous attend au bout du fil, dans la chaleur de la Floride. A-t-il été récompensé ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. Et oui, On entend actuellement, hein, c'est lui qui chante là. Alors, il n'a pas besoin de présentation. Il est né à Port-au-Prince en Haïti. Richard Verdieu, Richie Dje, de son nom de scène, a grandi dans une famille où la musique était omniprésente, gagnant des prix meilleure voix masculine en 2018 et artiste de l'année 2019 et au Kilimanjaro Music Awards de Toronto ainsi que meilleur artiste solo par le Haitian Music Industry de Montréal. Avec son dernier album, Le Temps, sorti le 12 mai 2022, il a été nominé dans la catégorie Album de l'année, Autre langue, et à la disque a été gagnant du prix Album de l'année 2022. Au Kilimanjaro Music Awards de Toronto, c'est l'artiste de l'heure, un talent confirmé en pleine émergence à découvrir. Absolument, il a plein de talents, mais aussi bourré de projets. À chaque année, on le voit sur ses réseaux sociaux. Moi, je ne peux plus le suivre. Alors, il chante la vie, l'amour, tout simplement. Et ce dimanche, nous soulignons sa nomination donc au prestigious Haitian Music Awards de Miami dans la catégorie artiste solo haïtien canadien de l'année 2023. Et nous avons le grand plaisir, madame, monsieur, de l'accueillir grâce à la précieuse collaboration de notre partenaire de toujours, Tolalito Music, live from Miami. Bonjour, Richie Dje.
Bonjour, bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci beaucoup de nous partager un peu la chaleur de la Floride.
Ah oui, oui, c'est vrai, il fait chaud ici.
Oui. Alors, hier, c'était la grande soirée pour vous. Parlez-moi un petit peu du déroulement de cette cérémonie et le concert d'hier soir.
Bah, c'était une très belle soirée. On peut voir que toute la communauté était présente, plein d'artistes étaient présents. Alors, on sent que toute la diaspora haïtienne était aussi présente.
Oui, c'est d'ailleurs, c'est une première, hein, pour les Haïtiens canadiens.
De Montréal, c'est pour la première fois qu'on a été. Parce qu'en fait, chaque année, ça se fait, mais c'est souvent avec des artistes d'Haïti et aussi ceux qui vivent aux États-Unis. C'est rare, ils n'ont jamais eu lieu avec ceux qui habitent ici, ceux qui habitent à Montréal. Donc cette année, c'est une grande première.
Et vous, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'on vous a au moins reconnu dans la salle? Est-ce qu'on vous a fait monter sur scène? Est-ce qu'on vous a offert quelque chose? Un trophée, par exemple?
Malheureusement, j'ai pas pu gagner parce qu'en fait, dans ma catégorie, il y avait Wesley qui a gagné, mais par contre, Wesley m'avait appelé quand même pour monter sur scène avec lui. Malheureusement, j'étais dans le backstage parce qu'il fallait qu'on se prépare pour la performance qu'on devait faire.
Oui.
Donc, j'ai pas entendu, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas embarqué sur le scène. Mais en fait, sinon, il y avait des médias aussi, en arrivant sur le tapis rouge, qui me connaissaient. Ils me disaient, ah, DJ, ben oui, ça me dit quoi, je connais bien.
Ouais.
Alors, donc, c'était quand même spécial de voir qu'il y a quand même des gens qui nous connaissent, ouais, qu'on pensait, mais les gens ne nous connaissent pas.
C'est un vrai blitz pour vous et Tolalito Music, parce que faut dire que les gens connaissent pas très très bien les artistes canadiens, surtout francophones ou haïtiens, n'est-ce pas?
Oui.
Hein?
Pardon, maman, j'ai pas compris la question.
Je dis, les gens à Miami, ville que je connais très bien, ne connaissent pas très bien la qualité, les artistes de haut calibre du Canada.
Non, ils ne nous connaissent pas vraiment pour vrai. Mm. Non, parce qu'on est vraiment, on est pas mal en train d'évoluer au Canada. Eux autres, leur marché, c'est vraiment à Miami. Ouais. Et aussi en Haïti, mais nous, les artistes montréalais, on est pas mal connus, plus au Canada qu'à l'extérieur. Mais sinon, il y en a quelques-uns d'entre nous qui se fait connaître à l'extérieur.
Ouais.
Mais majoritairement, les artistes montréalais.
Moi, personnellement, je connais beaucoup de Canadiens qui font carrière à Miami. Il y a beaucoup de francophones aussi, de Français, d'hommes d'affaires, des gens de la mode, des DJ. Miami, c'est un mélange unique, passionnant de culture urbaine, branché, d'atmosphère balnéaire, décontractée, de tradition latine, américaine, haïtienne. Un paradis culinaire aussi, hein, il ne faut pas oublier, du soleil toute l'année. Une nature sauvage et merveilleuse. Les modes de vie sains, l'apparence physique très important, n'est-ce pas? Et aussi, il y a...
Miami, non, mais oui. On le voit parce que tout le monde est pas mal en bikini, sur la plage et en outback, hein. Donc c'est ça.
Mais, alors, il y a une éclosion d'art, et il y a aussi une grande communauté haïtienne avec leurs restos, des boutiques, on parle beaucoup créole, il y a même, je pense, des stations de radio où il y a des émissions en langue créole haïtienne à Miami.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, comme vous, là, vous êtes un premier ambassadeur pour nous en direct. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens de la Floride, que les Américains s'ouvrent aux réalités canadiennes et aux cultures et artistes canadiens? Est-ce que vous auriez un secret à nous dévoiler?
Ah, mais ce qui est simple dans tout ça, pour vrai, c'est juste que c'est de travailler, c'est de aussi essayer d'avoir, si on connaît des gens dans l'industrie ici à Miami, donc comme qui pourrait faire le pont entre Montréal à Miami, parce que sinon les gens d'ici ne vont pas vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'ils sont pas mal bombardés tout de suite, parce que tout le monde vient ici. Tout le monde vient aux États-Unis.
Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on peut vous suivre sur Facebook, YouTube, iTunes, Spotify et sur notre site web, bien sûr, popbruchot.com, de la YouTube Music. Nous sommes très fiers de vous. Vous êtes toujours en tournée. Vous avez toujours des projets. Comment était en deux mots l'année 2023 et quels sont vos projets en 2024?
Mais pour l'année 2023, on a fait pas mal de projets, quelques voyages aussi. On était pas mal dans l'ouverture, je pense que ouvrir d'autres marchés, comme qu'on était en Espagne et à Colombia, c'est pour rencontrer des bookers de tournées internationales, donc c'était pas mal. On a j'ai sorti quelques projets aussi, quelques collaborations avec Anthony Zhu qui vient de la Guadeloupe, et donc moi je pense que c'est comme, mais pour l'année 2024 on a prévu un projet d'album, donc mais on va voir comment ça va dérouler. Mais quand même, on a plein de projets en tête. Je commence déjà à travailler des chansons. Mais on va voir comment ça va dérouler tout ça. Là.
Oui. Alors, c'est donc, encore une fois, je rappelle aux gens, vous êtes en direct de Haïti. C'est une première pour les artistes d'origine haïtienne de participer à une grande soirée, finalement, de reconnaissance à des musiques haïtiennes de l'Amérique du Nord. On va terminer, mon cher ami, avec une dernière chanson que j'aime beaucoup, et surtout l'artiste qui vous accompagne sur ce disque, c'est Big Tizon Diffé.
Oui, bien ici, c'est mon dernier son qui vient de sortir, donc ça fait 3-4 jours depuis que c'est sorti, c'était mardi.
Oui.
Donc ça va faire à peine une semaine depuis que c'est sorti, un très bel morceau qui s'appelle Nous c'est haïtien.
Nous c'est haïtien. Alors c'est une nouvelle chanson, madame, monsieur, en exclusivité sur Popourri Show, si Ayuti ma pomme FM. Alors je rappelle aux gens que Big Tizon Diffé, c'est un haïtien, ça fait pas très longtemps qu'il est au Canada, mais c'est un poète, il aime jongler avec les mots, c'est un artiste, un homme très engagé, il est passé à notre émission à quelques reprises, et c'est un des artistes de l'avenir aussi, et vous l'avez rencontré, déniché, pour monter ce... Comment ça s'est passé, cette première rencontre, et pour arriver à chanter ensemble?
Et en fait, cette chanson, je l'avais travaillée. Je me rappelle, j'ai rencontré à BIC, on était dans une soirée où il fallait qu'on performe les deux. Puis après, je lui avais dit, écoute, en passant BIC, je vais t'envoyer un son, tu me donneras ton avis.
Oui.
C'était même pas pour l'idée de collaborer, c'était plus que lui me donne son avis sur la chanson. Et quand il a écouté, il m'a dit, wow, c'est vraiment bon, j'aime le sujet, j'aime comment tu es fait. Puis c'est là, je dis, écoute, tu sais que je sais que tu écris très bien. Alors, je me dis, ça pourrait être mortel si toi, tu peux rajouter un petit touche de toi. Alors, il me dit, ok, ben, c'est parfait, et c'est comme ça. Et lui, dans son studio chez lui, il a rajouté sa partie. Et puis, il m'a envoyé ça, puis on a pu faire la chanson. Hein.
Oui. C'est super. Bon, avant de lancer la chanson, une première sur CUT 89,5 FM, je vous félicite encore une fois. Vous faites honneur à la communauté haïtienne, à la communauté francophone, merci, à la communauté canadienne dans son ensemble. Et j'espère vous voir à Toronto un jour dans nos studios. Alors, je rappelle aux gens que vous étiez à la 9e édition des prestigieux prix de la musique haïtienne qui a pris fin hier. Et c'est une première pour les artistes d'origine haïtienne vivant au Canada. Merci infiniment à vous et notre chère partenaire Elisabeth Drapeau qui est à la tête de Telalito Music. Allez sur www.telalitomusic.com. Vous allez avoir tous les renseignements sur l'homme, l'artiste Richie J qui est avec nous. Merci en pile et que la force soit avec vous, merci, mon cher ami Richie J.
Merci en pile. Passez une bonne journée.
Oui, alors nous c'est Haïtien featuring Big Tizon Diffé sur CUT 89,5 FM. Oh yeah.
yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Mm. DJ say, you don't defend. Try the music. Oh yeah, yeah, yeah.
Si, non payons sel. M'absente, c'est une fière pour moi, elle est ou frère. Si, nous chassons haine, a gain plus place pour l'amour en d'anguen. Nous sénés guinés, nous consacrer les gourmets. Mais fais l'entre nous, ça a pas pitié nous en rien. Mais t'es maintenant, mais pour construire on s'achimé. Nous doyons exemple pour pitié nous demain.
CIUT 89.5 FM, Toronto.
France 24. 4 chaînes d'information continue. 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
En 2024,
CUT-FM, en partenariat avec RFI France 24 et ses partenaires communautaires francophones et créoles, vous fait découvrir les francophonies dans toute leur diversité. Pour rien au monde, ne manquez pas nos grands rendez-vous. Festival Jeunesse Ciné Franco, Festival Théâtre Communauté des Noirs, avec la compagnie Théâtre Créole, en février et mars. Le mois de l'histoire des Noirs, en février avec Sophie Franc. Le mois de la francophonie, en mars. Le mois de l'histoire autochtone, le mois des fiertés, au mois de juin. La fête nationale française, le 14 juillet. Festival Compazouk, Efkazo, au mois de juillet, août. Le mois du Créole avec Kepka, en octobre. Le Festival Ciné Franco, grand public, en novembre. Les nouveautés littéraires avec les éditions Prise de Parole. Les nouvelles des Français de l'étranger avec l'association Français du Monde Toronto. Popourri Show, 37 ans déjà. Chaque dimanche de 11h à 13h sur www.cut.fm en partenariat avec Radio France Internationale et France 24. Concerts, spectacles, des cartes cadeaux, des places VIP, des émissions spéciales, des conférences à Ducréfaux, les visites guidées de la Société d'Histoire de Toronto et les bons plans de nos partenaires de la région et du monde francophone. Abonnez-vous immédiatement à nos bulletins d'information pour ne rien manquer. Devenez membre, chroniqueur ou partenaire de la seule émission en langue française sur la Radio Campus de l'Université de Toronto. Vous avez une thématique à nous proposer, une nouvelle à nous partager? Alors faites vite, écrivez-nous à popourri@cut.fm ou visitez tout simplement notre site web popourrishow.com. 2024, c'est l'année des voix, des sans-voix sur CUT 89,5 FM. Popourrishow, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Je pense qu'il est important que ceux qui sont encore en vie, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, puissent faire connaître aux jeunes justement ce qui s'est passé à cette époque-là et leur permettre de réaliser les horreurs de la guerre et d'œuvrer pour la paix. Parce que la guerre, c'est une chose horrible et j'espère que ça ne se reproduira jamais.
La francophonie torontoise est en deuil. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Jean-Gabriel Castel, né le 21 juin 1925 à Nice, en France, a servi pour la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aura marqué de son empreinte les 20e et 21e siècles de par son engagement social, son courage et ses qualités de professeur de droit, notamment à Toronto. CUTFM rend hommage à cet homme d'exception, un passeur de mémoire. Et si vous souhaitez y participer, veuillez nous envoyer vos textes à popourri@cut.fm ou un message via WhatsApp le plus tôt possible. Jean-Gabriel Castel n'est plus. Nos sincères condoléances à sa famille et la communauté française de Toronto. Soyez des nôtres sur cette antenne pour rendre hommage à Jean-Gabriel Castel. Tous les détails sur sa vie et ses nombreuses actions à Toronto sur popourrishow.com.
Avant l'armistice, j'étais allé faire de la bicyclette sur la grande route. Il y avait tous les réfugiés et puis les avions allemands qui mitraillaient tous les gens sur la route. Et ça m'avait très frappé. À cette époque-là, j'avais à peine 12 ans et demi. Et là, j'ai dit, il faut absolument que ça se termine et qu'on fasse quelque chose. Mon nom est Jean-Gabriel Castel. Je suis né en France et j'ai vécu à Nice pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai participé à la résistance lorsque j'étais assez jeune. Au moment de la reddition des Français, au moment de l'armistice, nous étions tous dans une grande place au milieu de la ville. Et les gens pleuraient et tout, et on a entendu le maréchal Pétain qui annonçait l'armistice. Il nous a dit « Je fais à la France le don de ma personne ». Alors à cette époque-là, il faut dire que nous étions tous derrière lui, hein, faut bien dire ce qui est, quoique nous avions déjà écouté l'appel du 18 juin du général de Gaulle. À tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Notre patrie est en péril de mort, luttons tous pour la sauver. Vive la France. Mes parents étaient plutôt... Ils n'étaient pas pétinistes, ils étaient gaullistes dès la première heure. Alors ça, ça a été très important. Moi, j'étais au lycée à cette époque-là. Il y avait les deux groupes, le groupe qui soutenait Pétain, parmi les élèves, et le groupe comme le mien, où on soutenait de Gaulle. Alors dans la cour de récréation, on se bagarrait entre les deux groupes. Et on avait de la chance, parce qu'à cette époque-là, la milice n'était pas encore bien établie, et sinon, on aurait été jeté en prison hein, pour être pour de Gaulle. Dans les écoles en France et tout, il y avait un sens... de l'honneur, de la responsabilité, des choses comme ça. Il disait, le sort le plus beau, le plus digne d'envie, c'est de mourir pour la patrie. Alors, quand vous êtes brainwashed, comme ça, en tant que jeune, on nous avait lavé le cerveau, si on peut dire. La France était divisée en deux parties. Il y avait la zone d'occupation allemande et puis la zone libre. Dans la zone sud, on était quand même assez libre pendant une certaine période. Le gouvernement était un gouvernement pro-allemand. C'était Laval, M. Laval, qui était le premier ministre du maréchal Pétain. Du point de vue politique, on était assez tranquille dans la zone où j'habitais parce que une partie était une zone occupée juste à la frontière par les Italiens. Et puis après, vous aviez la zone libre. Alors là, il y avait la milice, il y avait la police de Vichy et tout. Mais vraiment, jusqu'à cette époque-là, l'époque où les Allemands ont occupé toute la France, on était relativement tranquille. C'est en 1942, après Stalingrad, les Allemands avaient perdu beaucoup d'hommes et autres. Alors c'est à ce moment-là que la résistance s'est développée, parce que beaucoup de jeunes Français ne voulaient pas aller en Allemagne. Ils avaient besoin de personnes pour travailler dans les usines d'armement et autres. Si vous étiez ouvrier ou paysan ou autre et que vous pouviez servir les Allemands, à ce moment-là, si vous refusiez, vous étiez arrêté de toute façon. Alors beaucoup de jeunes y sont allés volontairement parce que c'était mieux que d'aller en prison. Mon action dans la résistance a vraiment débuté au moment où les Allemands ont occupé tout le territoire de la France. J'avais alors 16 ans. Quand on faisait partie de la résistance, il fallait faire très attention à ce qu'on dit. On pouvait être dénoncé tout le temps. Et puis on pouvait même être dénoncé à tort. Si par exemple vous n'aimiez pas votre voisin, vous alliez le dénoncer en disant qu'il faisait partie de ceux qui soutenaient De Gaulle. Oui. Et puis il y avait les souricières aussi. Les personnes qui ne faisaient pas partie de la résistance, mais prétendaient être des résistants pour savoir si vous faisiez partie de la résistance. Moi, je travaillais dans les équipes nationales et moi, j'aimais bien ça parce que ça me permettait, je prenais mon masque à gaz, mon casque et puis mes trucs de secours. J'allais rejoindre le poste de commandement et puis on s'en allait aider les gens qui avaient subi les bombardements. Et ça nous permettait d'avoir de la nourriture en supplément. Donc, alors que mes copains, eux, descendaient à la cave dans le lycée au moment des bombardements. Même dans la zone occupée, ils ont forcé les Juifs à porter l'étoile jaune et à se faire enregistrer. Il y avait de la propagande, par exemple, si vous alliez au cinéma, avant le film, vous aviez toute une série de petits films de propagande allemande contre les Juifs. Une fois que la zone a été occupée, là, la Gestapo est venue dans le sud de la France aussi, et moi je me souviens, parfois quand on prenait le train, et si la Gestapo montait à bord, parce qu'il y a eu des dénonciations, les hommes... Ils les regardaient, puis si c'était des gens qui soupçonnaient d'appartenir à la résistance ou d'être juifs, alors ils nous emmenaient dans les toilettes, là, et puis il fallait montrer qu'on n'était pas circoncis. Certaines femmes, les femmes de prisonniers de guerre ou autres, sortaient avec les Allemands parce que pour trouver un peu de nourriture pour les enfants. Et puis à la fin de la guerre, ces pauvres femmes ont été toutes arrêtées, ont été tondues. Moi, j'étais chargé par mon commandant, là, justement, de garder ces femmes pour les protéger, parce que la population voulait avec des couteaux et des fourchettes, et essayer de les tuer comme ça. C'était horrible. Quand j'étais jeune, j'avais eu une gouvernante allemande. L'allemand était ma première langue, en fait. Mais les Allemands ne savaient pas que je parlais l'allemand. Alors, quand les Allemands recevaient des ordres et tout ça, de la commandanture et autres, moi j'écoutais, là, et puis je rapportais ça à mon chef quand j'allais au lycée ou autre. Quand les bombardements arrivaient aussi, je savais où il y avait les lignes de communication, et si j'étais à la maison ou autre, j'allais couper les fils, là, comme ça, les Allemands pouvaient pas... donner des ordres. À cette époque-là, il n'y avait pas tous les téléphones portables. Quelqu'un m'a dénoncé à la Gestapo. Mais heureusement, ils m'ont téléphoné à la maison. Et puis, il m'a dit, fais attention, la Gestapo arrive pour t'arrêter. Je me suis vite habillé, j'ai pris mes papiers. J'avais des faux papiers, naturellement, et des faux noms et tout. Je suis allé d'abord me cacher dans la cave. La Gestapo est rentrée dans la maison pour me chercher parce que j'étais pas au lycée. Il n'y avait pas d'électricité dans la cave. Avec la lampe électrique, moi j'étais contre le mur comme ça. Et puis ils sont venus. Demon here. Il n'y a personne là. Et puis ils sont repartis. Ouais, je comprends pas, ils n'ont pas entendu mon cœur battre. Hein. Alors d'abord, il y a eu le débarquement dans le nord, là, Omaha Beach et tout ça, 1944. Et là, ils nous ont annoncé qu'il allait y avoir le débarquement dans le sud. Alors là, on a préparé ça en faisant sauter les ponts. J'ai pas réussi à faire sauter un des ponts qui était près de chez nous. Déboulonner les voies ferrées, pas pour les civils ni rien, mais pour les trains militaires allemands. Et là, c'est la photo que vous avez, là, où on a enlevé les vis qui tenaient les rails et on les écartait juste un petit peu parce qu'il y avait des patrouilles de soldats allemands qui patrouillaient les voies ferrées. Et heureusement, on s'est pas fait prendre. J'ai eu de la chance d'être encore en vie aujourd'hui. Ça, c'était mes pièces d'identité. Les équipes nationales certifient que le jeune Castel, Jean Demeurant, venu de Cocade, a participé dans la section SOS à tous les déblaiements des décombres occasionnés par les bombardements qui ont subi Nice et les Alpes-Maritimes. Il a accompli avec foi et courage toutes les missions souvent périlleuses qui lui ont été confiées. De plus, il a contribué en y participant à la libération de Nice en combattant le 28 août dans nos rangs au lycée de Nice. Nous nous félicitons d'avoir eu un tel équipier dans nos rangs. Les photos que j'ai prises, c'est des photos que j'ai prises pendant la résistance, au moment du débarquement. Plusieurs personnes de mon groupe de résistance avaient été arrêtés par les Allemands et fusillés ou pendus à des lampadaires, et puis d'autres qui avaient été assassinés par la Gestapo. Là, on les a découverts plus tard. Les photos là, c'est les photos pas au moment où ça s'est passé, hein, mais c'est des charniers où ils jetaient les corps des gens qu'ils exécutaient secrètement. Parce qu'il faut pas penser que la résistance a été universel. Malheureusement, nous, on a été une minorité. À ce moment-là, je vous dis, mes activités dans la résistance se sont terminées. Mon père est venu, il m'a dit, non, maintenant, fini tout ça. Il faut que tu ailles faire tes études. Mais j'avais, à cette époque-là, j'avais 17 ans. Quand on a 16, 17 ans, on a une vue des choses un peu différente qu'à mon âge maintenant. D'ailleurs, toute ma carrière suivante a été justement les horreurs de la guerre, les horreurs des camps et tout ça. Je pense que moi, je suis devenu arbitre international et je pense que la solution, c'est toujours d'essayer de trouver un moyen pour se mettre d'accord, parce que on est tous perdants dans la guerre.
Popourri Show CUT FM présente l'histoire sans fin de Jean-Gabriel Castel, la Légion d'honneur de père en fils depuis Napoléon. Une émission spéciale en partenariat avec Français du Monde Toronto, en hommage à Jean-Gabriel Castel, décédé le 30 décembre 2023 à Toronto, à l'âge de 95 ans. Jean-Gabriel Castel, un homme qui a connu une carrière extraordinaire en tant que juriste, professeur de droit international à Osgoode Hall et au Collège Glendon, conférencier aux États-Unis, en Europe, au Japon. Né à Nice, où il a résisté contre l'occupation allemande à l'âge de 15 ans, il vivait au Canada depuis 1950. Ses premiers engagements furent récompensés par la médaille du combattant volontaire de la résistance, la croix du combattant, la médaille commémorative de la guerre 1939-1945, la croix du combattant de l'Europe et la médaille d'honneur de la Fédération des anciens combattants. Il est membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario. Il a été honoré par le ministère de la Justice de l'Ontario pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine des lettres et du droit. Il est aussi l'auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages juridiques en langue française et anglaise, devenus des classiques pour les étudiants, avocats et juristes du Canada et d'autres pays. En 1986, Jean-Gabriel Castel est élu président de l'Association des anciens combattants français résidant en Ontario et au Manitoba, un poste qu'il occupa pendant 25 ans. Il a agi comme membre consultant de plusieurs grands cabinets d'avocats en Europe et au Canada, notamment le cabinet Orient Legal Group à Toronto. Pendant plus de 11 ans, il a fait la navette entre Toronto et Montréal, hiver comme été, afin de terminer en 1976 la révision du Code civil du Québec, dont il était co-responsable. Jean-Gabriel Castel a aussi contribué à l'essor de la communauté française, expatriée au Canada anglais dans les domaines des arts, de la littérature, de l'enseignement et du commerce avec la France. Il a été actif au sein de l'Alliance française de Toronto, France-Canada, la Chambre de commerce française de l'Ontario, l'Union des Français de l'étranger. Il a inspiré le choix de carrière de nombreux jeunes lors de ses nombreuses rencontres dans les écoles publiques et privées dans la région de Toronto. Dans la vie privée, il aimait la nature, la peinture, la musique baroque et sacrée, ainsi que l'opéra. À 80 ans, il traversait le désert de la Namibie à pied, sac au dos, faisait de la plongée sous-marine dans les îles Calabagos ou des ascensions dans l'Himalaya. À 90 ans, il continuait à faire du sport, marche, ski, de fond, natation, gymnastique. À la fin d'une vie si bien remplie et riche en aventures, cet homme de la Renaissance moderne n'avait jamais perdu la foi dans un avenir meilleur pour l'humanité. Toutes nos condoléances à la famille, les proches et les amis de Jean-Gabriel Castel. Dans un instant témoignage, un souvenir, anecdote sur la vie de l'homme Jean-Gabriel Castel, en exclusivité sur CUT 89,5 FM.
Hommage à Jean-Gabriel Castel. Un passeur de mémoire. Et notre prochain invité nous a envoyé un message suivant sur Facebook. Merci à Popourri Show de prendre le soin de mentionner le parcours de Jean-Gabriel Castel. Les derniers résistants et combattants contre les nazis s'éteignent en silence et humblement. De plus, Jean-Gabriel, dans la résistance, a 16 ans, est le modèle d'un engagement pour la défense des valeurs de liberté, fraternité, au-delà des races. Choisir est toujours possible. Jean-Gabriel a toujours eu confiance dans notre jeunesse pour reprendre le flambeau des luttes pour un monde meilleur. Pour nous aider à mieux connaître ou comprendre ce personnage à plusieurs vies, nous avons le bonheur et la chance d'avoir à nos côtés un grand ami de la radio. Quelqu'un qui est très engagé, qui accompagne depuis très longtemps les nouveaux membres de la communauté française qui viennent s'établir à Toronto. Très impliqué auprès de la communauté française et du monde associatif. Ancien président de l'Association Français du Monde, ancien proviseur à la Toronto French School, membre et délégué à l'éducation pour Amicitia France-Canada. Il s'est engagé pour mener à bien l'édification d'un monument commémoratif de l'amitié franco-canadienne à Ottawa. Président de l'Ordre des Palmes Académiques du Canada, organisateur depuis 2002 des commémorations de la bataille de Vimy, à la mémoire des soldats canadiens tombés en France pendant la Première Guerre mondiale. Chevalier de l'Ordre national du Mérite, son combat pour défendre les intérêts de la communauté l'a mené à déposer une plainte auprès de la commissariat du commissariat aux langues officielles en 2016. Membre de CUT-FM et notre émission, j'ai l'immense plaisir, Madame, Monsieur, d'accueillir Monsieur Gérard Poupé. Merci infiniment, cher Gérard Poupé, d'être des nôtres pour rendre hommage à votre ami et compatriote, le vétéran émérite Jean-Gabriel Castel, né plus. Quel parcours ! Un homme qui a eu un parcours universitaire exemplaire, étudiant le droit à Paris, puis à l'Université du Michigan aux États-Unis, avant d'intégrer la prestigieuse université de Harvard, où il obtient son doctorat en sciences de la jurisprudence en 1958. Il élit domicile au Canada, vivant entre l'Ontario et le Québec. C'était un juriste, un conférencier hors pair, Et une auditrice française à l'écoute en ce moment m'a confié qu'il était si populaire et en demande à l'époque qu'il faisait la navette entre Paris, New York et le Japon en Concorde. Parlez-moi un peu de votre première rencontre avec professeur Jean-Gabriel Castel.
Tout d'abord, merci à Poupourri, CIUT et RFI pour votre engagement radiophonique sur la lutte contre toutes les infox, comme on dit, et de m'avoir invité. Je n'ai pas l'envergure de Jean-Gabriel et je veux simplement réagir comme modeste citoyen. J'ai sa photo sur mon écran devant lui, quelques nuages dans un ciel bleu, et son sourire et ses yeux qui nous disent « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ?» Sa première rencontre, c'est un homme qui a tout de suite le contact et qui détecte ses amis, et il les détectait même chez ses ennemis. Et j'ai été impressionné par sa grande ouverture, disponibilité et surtout frappé par sa modestie et son humilité. Là, sur cette photo, il n'a pas toutes les médailles qu'il a méritées, il en aurait d'autres qu'il aurait dû mériter, qu'il n'a pas, mais il n'a jamais couru après les médailles. Il était modeste, c'était un homme d'action, et pour moi, Jean-Gabriel est une fusée à multiples étages, avec des étages de devoir, de citoyenneté, d'action, de bénévolat, de réalisation, d'engagement. Donc cette fusée, elle est parmi nous, elle nous a laissé des empreintes, et maintenant, et comme il me regarde encore, il dit « Et alors, qu'allez-vous faire ?» Surtout dans ce monde, et on doit dire que l'actualité nous mène à regarder le passé. Avec tous ces mots en isme, qu'ils soient racisme, totalitarisme, fascisme, nazisme, la situation du monde actuel, avec l'héritage de Jean-Gabriel, nous répète « Et alors, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et nous n'allons pas faire que des likes et dire du nom. Je n'ai jamais vu un téléphone cellulaire vibrant de communauté. Nous devons, et là les anciens comme les jeunes, et je dois dire que Jean-Gabriel a été un homme engagé vers la jeunesse, il a parlé, il a expliqué, c'est un devoir d'éducation. On a le devoir de mémoire, mais nous avons un devoir d'éducation qui est celui d'expliquer, de faire savoir et de répondre à ce que nous entendons dans notre monde de violence, si j'allais dire, s'oriente plutôt vers des années pour lesquelles nous avions dit « plus jamais ». Nous voyons des défilés en Italie avec qui nous rappellent les chemises noires et les saluts nazis. Nous voyons dans tous nos pays des virages et des appuis vers l'extrême droite et le développement du racisme, de la négation de la diversité, etc. Donc nous sommes dans un monde dangereux parce que nous avons eu beaucoup de mal à faire notre devoir, à le faire connaître, à le promouvoir et à lancer des actions. Je repense à Jean-Gabriel, quand il avait 15 ans, il était le fruit alors en France, d'une école de la République de l'entre-deux-guerres, qui avait, bon c'est contestable maintenant, mais qui avait à son programme « chaque jour l'instruction civique et la morale. Et qu'est-ce qu'on faisait dans cette école de la République? On tentait de former des citoyens responsables, engagés, qui avaient des droits et des devoirs, une responsabilité, une force, un courage et des valeurs. Et je dois dire que Jean-Gabriel, quand il m'a répété ses principes, les principes fondamentaux sur lesquels il croyait, c'était notamment un esprit saint dans un corps saint. C'était aussi un sportif, un combattant. Et le sport donne la force et le goût du défi. Une autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que pour moi, il a été dès 15 ans dans son adolescence une illustration de la phrase de Jean-Paul Sartre qui a été contestée, qui a été un peu prise comme un scandale, mais Jean-Paul Sartre, dans ses lettres françaises en septembre 44, disait « Jamais nous n'avons été aussi libres que sous l'occupation allemande ». Et Jean Briel, près de Nice, quand il était entouré par les armées nazies, à 15 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait cette liberté, ce que voulait exprimer Jean-Paul Sartre, simplement, nous avons une liberté, la seule liberté que nous avons, ou que nous avions à cette époque-là encore mieux, c'était le choix. Le choix de quel côté on est, et de quelle action on prend, et de quel risque on prend, et comment on va engager avec nous des amis solidaires et des combattants pour la liberté. Donc il y a tellement à dire que j'allais dire je ne sais pas par quel bout commencer ou continuer, mais pour moi, en tant que simple citoyen, et bien sûr que je suis français du monde et citoyen du monde, nous sommes à un virage, j'allais dire, qui pourrait se négocier dramatiquement. Si nous n'arrivons pas ensemble à nous redresser, à nous dire où allons-nous et quel est notre rôle de citoyen engagé.
Et aussi, il faut le dire, il faut choisir son camp à un moment donné. C'est pour cette raison que je voulais passer absolument ce documentaire que vous avez peut-être entendu, un extrait de ce documentaire Projet Mémoire, Deuxième Guerre mondiale, gracieuseté de l'Office national du film du Canada, la Bibliothèque nationale de la France, Bibliothèque et les Archives Canada. Sa voix restera toujours gravée dans nos mémoires. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Et comment expliquer le parcours extraordinaire de cet homme en Amérique du Nord pendant si longtemps?
Alors, je ne parle pas de tout son immense et incroyable travail professionnel sur les lois, le jurisme et tout ça. Je m'attarde plutôt à ce qui, pour moi, ce qui est un flash déclencheur de ses propos et de ses actions, commencé à son adolescence, bon, résistant contre l'occupation nazie, secouriste dans les bombardements de Nîmes, rencontre avec le général de Gaulle en 45, et là, une anecdote qu'il aimait à citer, c'était que quand il a retrouvé le général de Gaulle de passage à Toronto, beaucoup plus tard, des années plus tard, il était impressionné par sa mémoire. Mais à part sa carrière de juriste, gigantesque, en plus, quand il avait des années sabbatiques, il parcourait le monde pour le comprendre et comprendre les différences, etc., il était bilingue, et là, il y a quelque chose à signaler pour nous au Canada, c'est que Jean Gabriel s'est engagé dans le bilinguisme, non seulement pour les lois, mais pour la création de, d'écoles françaises en Ontario et pour la défense du français en Ontario, avec une action et une implication. Aussi, il faudrait soulever sa générosité dans son parcours de créer des fonds pour aider les étudiants en difficulté, tout son bénévolat avec son épouse et ses enfants pour aider les handicapés, qu'ils soient physiques ou mentaux, dans un monde qui ne leur prête pas attention, pour aider les jeunes qui vivent dans la rue, les personnes difficiles, qui ont des conditions de vie difficiles. Enfin, c'est un tableau qu'on ne pourra jamais dresser et qui nous dit, alors, qu'est-ce que vous allez faire ?
C'est quelqu'un aussi qui aurait pu rester en France, contribuer à sa mère patrie, n'est-ce pas ? Et j'en profite, Monsieur Poupé, pour vous poser cette éternelle question que se posent mes amis français ou les autres immigrants. Pourquoi un homme de ce calibre décide de s'aventurer en Amérique du Nord et y rester pour faire carrière ?
Alors là, bonne question. Je ne sais pas si je peux répondre, mais comme moi-même, venant de la mère patrie et installé au Canada depuis des années, bon, c'est vrai qu'il a eu la chance d'avoir des bourses pour ses études, de trouver ici au Canada. Pourquoi au Canada ? Pourquoi choisit-on le Canada ? Je ne veux pas dire que c'est à cause de Maria Chapdelaine, mais et des arpents de neige, mais on pense que c'est, j'allais dire, sans politique. Mais Nouvelle-France veut dire nouvelle vie, une autre façon d'œuvrer pour ici penser à la présence française et développer, après des années de, bon, on doit le dire quand même, de combats avec nos amis anglais et une situation politique difficile, pour valoriser le français. Donc ça appelle à dire, je suis résident, je m'installe au Canada, mais j'ai une mission. Je veux défendre la culture et la langue française. Et là, il a aussi agi là-dessus. Sans négliger notre mère patrie, comme beaucoup d'expats le font, beaucoup viennent là, découvrent, certains vont regretter repartir, mais de nombreux expatriés vont prendre une nouvelle chance parce que c'est une nouvelle vie. Voilà.
Est-ce que on pourrait penser un jour avoir un monument Jean-Gabriel Castel à Toronto ?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Parce que je ne sais pas, et là j'allais dire, je ne sais pas si les autorités officielles françaises ont réagi quand on a diffusé la mort de la disparition, disons, de Jean-Gabriel et son héritage, je n'ai pas vu, et je suis un peu... Bon, je suis toujours triste quand je pense à, comme disait... je sais pas si c'est Giscard qui disait « Ma France, j'ai mal à ma France » ou je ne sais pas, mais que les autorités officielles françaises n'aient pas saisi cette occasion pour valoriser ce qui est accompli ici par des hommes X, Y, et il y en a plein d'autres, pour la culture, pour la diffusion du français, sans ambition de carrière, sans recherche de médaille, et je suis attristé par, je n'ai pas vu dans de, je sais pas, sauf erreur, de publication dans les médias sociaux de la France, des représentations diplomatiques, d'intervention sur la disparition de notre cher Jean-Gabriel. Et je suis prêt, Eric, à mettre en œuvre avec ceux qui sont d'accord d'avoir un monument, parce que ce monument ne sera pas un monument aux morts. Il sera un monument aux vivants. Un peu dans le style d'Amicitia France-Canada, voilà. Au Canada, à Ottawa, je veux dire, pour dire, voilà, cet homme, il a semé. il a laissé des empreintes. Ces empreintes, elles ne sont pas dans la neige, elles ne vont pas fondre. Ces empreintes, elles sont là. Et alors, la France, qu'est-ce que tu fais? Que font nos instances officielles? Il a eu des médailles, mais c'est des médailles, c'est fixe. Les médailles ne servent à rien s'il n'y a pas d'action. Et lui, ce qu'il voulait, et comme il m'a dit, il était aussi chevalier des palmes académiques parce que c'était un professeur et qui croyait en l'éducation des jeunes et au succès de l'éducation d'expliquer, de dire, de commenter et tout. Mais notre France, ici, ne peut bouger localement que si nous, citoyens engagés, nous commençons quelque chose.
Alors, j'ai rien vu sur le site de Osgoodwall ou encore à Glendon College, qui est là où il a enseigné. J'aimerais rappeler rapidement aux gens, aux auditeurs, que les premiers engagements du professeur Jean-Gabriel Castel furent récompensés par la médaille du combattant volontaire de la résistance, la croix du combattant, la médaille commémorative de la guerre 1939-1945, la croix du combattant de l'Europe, et la médaille d'honneur de la Fédération des anciens combattants. En 1986, Jean-Gabriel Castel est élu président de l'Association des anciens combattants français résidant en Ontario et au Manitoba, un poste qu'il occupa pendant 25 ans. Je sais qu'il aimait rencontrer les jeunes dans les écoles publiques et privées, à voir sur YouTube. On peut, d'ailleurs sur votre site aussi, on peut voir de très belles photos avec les jeunes des Peaux du Gerbe au monument des combattants. Dans ce monde brutal, cher monsieur Poupée, où les cas d'antisémitisme est en hausse en France, aux États-Unis, au Canada, je rappelle aux gens que plus près de nous, à Toronto, le chef du service de police nous a dévoilé récemment un constat alarmant. Plus de 190 appels liés à des crimes haineux chaque mois, d'octobre à décembre 2023. C'est alarmant, n'est-ce pas? Pensez-vous, cher monsieur Poupée, que des messages comme ceux du professeur Jean-Gabriel Castel peuvent avoir un impact chez les jeunes? Parce que je sais qu'il aimait donner des conférences, des ateliers, animer des ateliers dans les écoles. Est-ce que, pour lui, son espoir, c'était justement d'aller toucher cette jeunesse?
Oui, la situation est atrocement détestable. Je ne sais pas si c'est français, mais d'où vient ce mouvement tellement facile, tellement inhumain, que la jeunesse ne peut s'engager que si nous, citoyens, les seniors, les jeunes, les parents, l'école, les gouvernements de tous les niveaux font quelque chose ou continuent à mettre en œuvre une éducation. Et c'est tellement facile d'être contre et d'être anti ceci.
Alors, là, je m'interromps de vous couper, mais il y a beaucoup de programmes d'éducation, de sensibilisation dans nos médias, dans nos écoles et aussi au sein des gouvernements fédéral, provincial. Je sais, j'en connais très bien de quoi je parle. Le problème actuellement que je constate, malheureusement, c'est que toutes ces communautés qui sont censées de travailler ensemble pour détruire l'ennemi commun travaille dans des silos, c'est-à-dire en compartiments. C'est-à-dire, moi je suis africain du Congo, je milite uniquement pour ma petite case du Congo. Moi je suis d'origine haïtienne, donc je milite quand il y a un problème qui affecte la communauté haïtienne. La même chose pour les Mauriciens, je pourrais dire la même chose pour les Français. Et moi je déteste de voir des gens se compartimenter pour finalement, à la fin, combattre l'ennemi commun. Mais ils le font pas, et ça a moins de poids, parce que justement, les gens refusent d'honorer, comme on le fait aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes d'origine différente, mais on reconnaît quelqu'un qui a laissé des traces et qui devrait être commémoré, se rappeler des œuvres de cet homme pendant très longtemps encore. Et que les autres francophones qui arrivent, les autres Français qui arrivent sur cette terre, un jour à travers un monument, reconnaissent la contribution des franco-ontariens, bien sûr, des Canadiens d'origine francophone, que ce soit de souche, mais aussi il y a des immigrants comme Lauriez et tant d'autres encore, qui ont fait des grandes choses, mais qui ne sont pas toujours reconnus par la communauté at large, comme on dit.
Oui.
Est-ce que j'y vais un peu trop loin?
Il y a... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, ce communautarisme, cette séparation, cette étroitesse. Je suis français, je m'occupe de... Je suis mauricien,
Voilà.
Non, le... Comme vous, je suis citoyen du monde. Et je pense que ces nationalismes étroits sont malfaisants. Et je ne vois pas comment j'essaie de comprendre, j'essaie de les résoudre. Mmh. Mais est-ce que l'école, dès le début, peut jouer un rôle dans la formation du citoyen ou au large? Et c'est cette étroitesse de vue qui conduit, qui conduit à la guerre, en fait, qui conduit au combat, qui conduit à la violence, à tout ce qu'on voit en ce moment. Mmh. Parce que, dans le commun des mortels, on disait, mais si toutes les personnes de bonne volonté voulaient vivre ensemble, en paix, et partager cette planète que nous avons sans avoir des délimitations de territoire et les combattre pour les agrandir, etc. Et ça se passe en Europe, et ça se passe en Moyen-Orient, et ça se passe ailleurs. Ce nationalisme étroit, c'est même encore plus étroit, parce qu'il y a des sous-nations qui combattent, qui revendiquent, à une époque où on devrait dire, nous sommes citoyens du monde. Et c'est ce concept qu'il nous faut développer parce que tous ensemble, de toute couleur, de toute race, de toute confession, de partout sur Terre, nous pouvons créer un environnement favorable pour vivre ensemble et pour partager ce qui nous est donné, le temps, et aussi ce qui nous est donné comme ressources sur la planète, et la nature. Et là aussi, Jean-Gabriel était engagé dans sa lutte pour l'environnement et pour la nature. Et qui fait partie des luttes, j'allais pas dire de la personne humaine, mais si nous voulons survivre, si nous voulons ne pas décliner, ne pas disparaître, il est temps de réagir. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous dit? Et alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Pour terminer, j'aimerais souligner son engagement en tant que conseiller élu dans la municipalité de la ville de Mono, dans l'État de Californie, aux États-Unis. Pendant son mandat, il est le seul à refuser toute rémunération et indemnité dont il fait don à des œuvres charitables locales, ayant fait campagne pour limiter les impôts municipaux. Pendant les 20 ans qu'il a vécu à Mono, sa nouvelle épouse, Anne Henney, et lui font du bénévolat auprès des femmes à violenter, Family Transition Place, et des jeunes sans-abri, Choices Youth Shelter. Leur fils, Matthew, s'occupe aussi des enfants souffrant d'autisme et plus tard agit aussi comme grand frère d'enfants orphelins. Je vous invite, madame, monsieur, à visiter le site que monsieur Poupé nous a envoyé ce matin. Le souvenir français a besoin de vous. Soutenez-le. C'est très, très intéressant. Alors, cher Gérard Poupé, un immense merci pour votre participation à cette émission spéciale hommage à votre ami Jean-Gabriel Castel. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'émission d'aujourd'hui. Richie J et Tolaito Music en direct de la Floride. Et bien sûr, monsieur Gérard Poupé, membre fondateur de l'association Français du Monde, actuellement coprésident, DJ Devora pour la mise en onde. Ici Eric Adair, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Je vous retrouve dimanche prochain et je vous invite à aller passer du bon temps au prochain... c'est votre prochaine rencontre des Galettes des Rois et des Reines samedi prochain. Alors, j'espère qu'il y aura du monde, hein, Monsieur Poupée.
J'espère qu'il y aura des rois et des reines d'un jour, mais juste un grand merci et mes derniers mots, parce que je n'ai pas assez soulevé l'engagement de Jean Gabriel pour la justice sociale,
oui,
la lutte contre les inégalités, les victimes de toutes les violences, voilà, que vous avez signalé, Eric. Et il y a tellement, tellement à dire que nous allons continuer.
Bien sûr.
Et nous allons avoir ce projet de beau monument au du vivant. Bon. Merci.
Alors,
beaucoup.
On termine avec le chant des partisans, ou chant de la libération, que vous connaissez bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'hymne de la résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie. Je vous dis au revoir et à dimanche prochain.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? C'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?